Alors, du coup, cette faiblesse de la langue, alors, faiblesse de, double faiblesse, l'hébreu, c'est comme une langue de primitif. Hein. Voilà, c'est une langue quand même assez rugueuse, assez rurale, si on peut dire. Hein.
Comme le latin des origines.
Oui, comme le latin des origines, ou probablement le grec des origines aussi. Et puis, le Nouveau Testament, écrit dans un grec qui est un grec un grec globiche, hein, eh bien, ça ne sera pas pour rien dans la défiance que les milieux cultivés vont avoir à
Les
l'égard du
cultures chrétiennes.
christianisme. Origène. Donc relève que son adversaire Cels, quand il va écrire le Contra Celsum, raillait une doctrine exprimée dans un tel langage de docker. Voilà. Alors, il disait, comment peuvent-ils prétendre dire l'ineffable dans un langage qui est tout juste bon pour des débardeurs de porc, quoi.
C'est déjà la querelle des maîtres ouvriers.
Oui.
Mais est-ce que c'est pas une traduction de l'araméen? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des textes de l'Évangile rédigés
On peut tout
d'abord en
dire. Alors,
araméen?
il y a.
C'était la thèse de Claude
Oui,
Tresmontant,
tout à
notamment.
fait. Notamment, on a des traces dans les Pères de l'Église qui disent qu'il y a eu
C'était en hébreu à
au moins
l'initiale.
un premier saint Matthieu en langue hébraïque, alors hébreu ou araméen. Ah oui, certainement. Mais en tout cas, ce qui est canonique, c'est la version grecque.
Oui, mais
Parce que
c'était une
là.
mauvaise traduction de quelque chose qui a été au moins pensé en araméen.
Oui, voilà, qui était pensé en araméen. Et de fait.
Comme ce que disaient les Grecs jusque la chute de Constantinople.
Oui,
C'est après, quand il y a eu ceux qui sont venus par ici, bon, sans nous, j'aurais dit le contraire. Mais en fait,
oui.
la tradition grecque disait bien qu'en fait, c'était une traduction.
De la
Disons, le taux de gens qui savaient lire et écrire était bien supérieur chez les Hébreux que chez les Latins
Ah,
et les Grecs.
oui, certainement.
Donc, imaginez que ces gens-là n'aient pas écrit.
Alors, ça dépendait pour qui.
C'est pas très difficile, quoi.
On voit
Pour
par
un gamin comme
exemple que
ça.
certains s'adressent au monde païen. Ou aux juifs qui vivent dans le monde païen, donc ils s'adressent directement à eux en grec. Par exemple, Saint-Luc, ça c'est clair. Et on sait que Matthieu, lui, s'est plutôt adressé au milieu pharisien, au milieu juif, qui était fier d'utiliser l'hébreu ou l'araméen. Donc on sait, enfin je ne sais plus quel est le père de l'Église qui parle d'un original. Araméen enfin en langage hébraïque de Saint Matthieu, sauf qu'on n'a jamais retrouvé. Donc on n'a que la traduction grecque et donc ce qui est canonique c'est donc le texte grec. Donc voilà, alors ces textes écrits dans une langue un peu piteuse, hein, parfois un peu pathétique. C'est une des raisons aussi pour lesquelles Saint Augustin disait dans les Confessions que la pauvreté littéraire de la Bible avait été pour lui un réel obstacle. Alors non seulement les histoires qu'on y raconte, notamment dans l'Ancien Testament, mais même aussi la qualité piteuse de la langue, alors qu'évidemment tous ces rhéteurs, tous ces lettrés étaient au courant de toutes les finesses de la langue. Et s'attendait à les retrouver dans un langage qui devait être un langage divin, puisqu'inspiré. Mais l'ennui qui avait été inspiré à des gens qui étaient des pêcheurs, donc, et qui n'étaient pas des académiciens. Alors, du coup, là aussi, l'analogie avec le Verbe n'est pas sans intérêt, parce que de même que le Fils s'est abaissé et humilié en prenant une chair humaine, et encore bien une chair de péché, hein, pas une chair resplendissante, celle du premier Adam, mais. Celle de sa descendance. De même, la parole de Dieu, le Verbe, s'est abaissé et humilié en acceptant d'être fixé dans une langue aussi pauvre, une langue doublement pauvre, l'hébreu d'un côté, et puis le grec impérial de l'autre côté.
Mais lui-même s'adressait. Enfin, quand on voit toutes les paraboles qui
Lui
collent au réel, lui-même
s'adresse
s'adressait
en.
pas à des gens
Non, bah,
ni
en
le soins
plus.
cultivés,
Oui,
donc.
alors c'est la raison pour laquelle son enseignement est en araméen, dans la langue du peuple. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il a pris, il n'a pas voulu faire des grands discours dans une langue savante, mais il s'est adressé aux gens dans la langue qu'ils pouvaient comprendre.
Mais même, je suppose que son style, enfin, cette façon de prendre dans, tout le temps des comparaisons dans le réel, dans le monde paysan, le monde, c'est aussi une forme de...
Oui, voilà, il a pas fait des grands concepts, il a parlé à partir du réel concret que les gens connaissaient. C'est assez impressionnant de voir comment l'incarnation est allée jusque-là, hein. Voilà. Alors après, donc le premier paragraphe, c'était les langues de la Bible. Maintenant, on va voir les traductions. Je vous disais, la transmission, c'est... Il y a la langue, et puis il y a ensuite la manière dont on va traduire. Alors justement, la question de la traduction, elle est intégrée dans la Bible, puisque, comme je vous disais, par exemple pour le Siracide, il y a même la remarque que fait le traducteur sur son travail. Alors, le passage de l'hébreu au grec prépare l'abolition du particularisme propre à Israël et l'universalisme qui qualifiera le nouvel Israël de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Donc, Israël avait conservé sa langue pendant longtemps. Ensuite, t'es passé à l'araméen, mais elle avait conservé pour le culte la langue hébraïque. Mais là, comme tout le Nouveau Testament est écrit en grec, et que l'Ancien va être traduit, enfin la Bible juive va être traduite en grec pour l'usage des chrétiens, eh bien, on prépare justement cette universalisation, puisqu'on va, utiliser la langue comprise par tous. Et qui montre bien comment la prophétie faite à Abraham, que toutes les nations, tous les clans seront bénis dans la descendance d'Israël, s'accomplit. Parce que du particularisme qui avait été conservé finalement jusqu'à la venue du Christ, eh bien, on va passer à l'universalisme. Et ça va se manifester aussi dans la langue. Alors, grand 1, le problème des traductions. Alors, tout d'abord, les traductions juives. Alors, je vous avais dit que ces traductions étaient devenues, même pour les juifs, une nécessité. Traduction en araméen pour ceux de Judée, qui ne comprenaient plus l'hébreu, qui revenaient de Babylonie, etc. Et en grec pour ceux de la diaspora, répartis dans tout le bassin méditerranéen. Et la plus importante des traductions grecques de la Bible juive, c'est celle dite des Septante, ordonnée par le roi Ptolémée d'Égypte, un grec. Et la légende ajoute que 72 lettrés auraient traduit chacun la totalité de la Bible, aboutissant en 72 jours exactement au même texte. Voilà. Peut-être il différençait sur la vocalisation, mais elle n'était pas notée. Alors.
Ah si, parce qu'une fois arrivé en grec...
Comment ?
Vous avez les voyelles en grec.
Oui, en grec, oui, c'est vrai, oui.
Forcément la même chose.
Non, en plus, c'est forcément la même chose, oui. Oui.
Je veux dire, si effectivement, c'est bien le texte, il n'y a pas de raison pour que c'est
Oh, bah si.
Je veux dire, si c'est des textes que
c'est exactement le même texte, c'est pas possible. Il y a quelques mots qui changent, quelques tournures.
Oui, dans la traduction. Enfin, disons, c'est une légende pour montrer à quel point c'était une œuvre parfaite.
Oui, c'est une légende.
Voilà. Alors, et ces traductions, d'ailleurs, se multiplient entre les 3e et 1er siècle, au point que ça posera des problèmes aux chrétiens, parce qu'ils ne sauront pas dans quelle Bible choisir, quel est le texte authentique de la Bible hébraïque, puisque ils y ont accès dans de multiples traductions grecques. Et justement, Origène, pour essayer de mieux commenter l'Ancien Testament, eh bien, va se faire un travail, une sorte de comment dire, d'aide, enfin,
d'exemple.
Oui, voilà, il va se faire une sorte d'instrument de travail, voilà, d'instrument de travail, en faisant une synopse des versions grecques en usage de son temps et en Égypte, hein, mais pas qu'en Égypte, aussi en Syrie, et ce qu'on appellera les exaples. Pourquoi ? Parce qu'il y a 6 colonnes. Alors, il va donner le texte hébreu translittéré en grec, et 5 versions grecques différentes, dont celle de la Septante. Et qui pour nous est la plus importante quand même, parce que les citations de l'Ancien Testament que nous avons dans le Nouveau Testament viennent de la Septante. Donc si on veut, la Septante, c'est-à-dire cette traduction de la Bible juive, eh bien, est notre Ancien Testament un peu inspiré, si vous voulez, puisque c'est celui qui est repris dans le Nouveau. Autrement dit, la Bible des évangélistes et la Bible de saint Paul, c'est la Septante. Alors, du coup, petit b, le problème des traductions. Vous connaissez tous l'adage traductore traditore. Hein, donc, toute traduction est nécessairement une interprétation, même lorsqu'elle se veut absolument fidèle. Et cela est d'autant plus vrai, et ça même le traducteur du Siracide le souligne, que le passage s'effectue entre deux langues qui appartiennent à des familles linguistiques extrêmement différentes, entre l'hébreu, enfin l'araméen, et puis le grec. Et c'est ce que relève justement le traducteur du Siracide qui dit: vous êtes invité à en faire la lecture, donc de sa traduction, avec une bienveillante attention et à vous montrer indulgent là où, en dépit de nos efforts d'interprétation, nous pourrions sembler avoir échoué à rendre quelque expression. C'est qu'en effet, il n'y a pas d'équivalence entre les choses exprimées originairement en hébreu et leur traduction dans une autre langue. Bien plus, si l'on considère la loi elle-même, les prophètes et les autres livres, hein, vous vous souvenez de la formation ternaire de la Bible, leur traduction diffère considérablement de ce qu'exprime le texte original. Donc, lui a essayé pour le Siracide de faire une traduction très fidèle, mais il dit, pour le reste, il y a quand même beaucoup d'interprétations. Alors, toute traduction est en même temps un appauvrissement, une source d'interrogation. Ainsi, par exemple, quand on lit dans l'Ecclésiaste, Coëlette, en 7.1, on voit cette phrase étrange: « Mieux vaut un nom qu'un parfum ». On peut être étonné. Mais on l'est un peu moins si on sait que le nom se dit « Shem » et « parfum » « Shemen ». Et « parfum » a été opposé à « nom » tout simplement en raison d'une allitération, voyez, parce que pour apprendre la langue, finalement, souvent on utilise des allitérations qui permettent de retenir plus facilement le texte. Puis il y a aussi des modes. Par exemple, le goût grec pour l'abstraction va se substituer au goût hébreu du concret. Ainsi, dans le texte original de la Genèse, lors de la création, on dit que Dieu acheva le ciel et la terre avec toute leur armée. Et la Septante va dire avec toute leur gloire. Vous voyez, l'armée, ça fait un peu trop. Voilà. Et du coup, on remplace le mot armée par gloire, qui est plus abstrait. Même chose avec la théophanie dans le temple au début du livre d'Isaïe. Là où le texte hébreu disait poétiquement que la traîne de Dieu remplissait le temple, eh bien la Septante, elle va encore parler de la gloire. Parce que la gloire, bon, voilà, c'est plus ça a moindre contour concret. Tandis que la traîne, ça fait vraiment penser à un manteau, le manteau royal de Dieu. Ça. Et puis, l'évolution religieuse va aussi se manifester dans le choix des mots. Dans le judaïsme, après le retour d'exil, on ne prononce plus le nom de Dieu. Le mot de Yahvé, je suis, devient imprononçable et partout on va le remplacer par le Seigneur. Et c'est ainsi que la Septante, partout où elle verra Yahvé, elle remplacera par Kurios, hein, par Seigneur. De même, prophète est un terme qui signifie celui qui porte la parole en grec, alors que l'original hébreu, Naoui, signifiait plutôt celui qui est appelé. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, même si celui qui est appelé, c'est pour aller ensuite rappeler la parole au peuple. Mais vous voyez que le mot lui-même n'a pas la même, n'appartient pas au même champ sémantique. Alors, donc ça, ce sont les traductions juives. Alors maintenant, passons grand B aux traductions chrétiennes. Alors, il y a des traductions anciennes. Au départ, les chrétiens n'ont pas eu besoin de traduction, puisque les convertis, issus de milieux cosmopolites, soit des juifs de la diaspora, soit tout ce petit monde que les juifs de la diaspora côtoyaient quotidiennement, c'est-à-dire les commerçants, artisans, etc., eh bien, parlaient la même langue, en fait, le grec de la koiné. Donc, finalement, les premiers textes bibliques ont été, de la Bible du Nouveau Testament, ont été compris dans la mesure où ils étaient écrits dans la langue que tout le monde parlait, que tout le monde comprenait. Donc la langue où fut rédigé le Nouveau Testament et où l'Ancien avait été traduit. Alors le problème de traduction commence à se poser quand les Romains non hellénisés, c'est-à-dire les ruraux, et les peuples seulement latinisés, comme en Occident, eh bien vont se convertir. C'est, autrement dit, quand le christianisme va quitter les villes, en gros, et les milieux classe moyenne, en gros, et qui va toucher les classes, alors pas les classes populaires des ports qui étaient déjà cosmopolites, mais plutôt le monde paysan, c'est-à-dire en fait les campagnes. Alors, les campagnes en Italie, elles parlent latin, ça c'est clair. Et puis en Occident, par exemple en Gaule, en Bretagne, etc., nos Celtes, eh bien, ils ont appris quoi ? Ils ont appris la langue des soldats, le latin. Ils parlent, à part évidemment les gens des villes qui parlent aussi du grec, alors, quand on regarde nos premiers évêques à Paris, c'était des Grecs. Hein. Et donc il va falloir, pour que les gens comprennent, il va falloir s'adresser à eux en latin. Et donc, de multiples traductions apparaissent, la plupart sur des traductions grecques de l'Ancien Testament et sur les manuscrits, évidemment grecs, du Nouveau. Et l'une d'entre elles, qui circule en Italie, est la plus connue, c'est celle qu'on appelle la Vetus Italica. La Vetus Latina. Mais ces traductions ne sont pas toujours satisfaisantes, surtout pour l'Ancien Testament, qui est traduit à partir déjà d'une traduction. Vous voyez, hein, donc on multiplie les possibilités d'erreur. Alors, Saint Damase, le pape va charger Saint Jérôme, donc qui vit de 350 à 420, de retrouver la Veritas Hebraica. Alors, Jérôme commence par réviser les traductions latines à partir du grec, puis il décide d'apprendre l'hébreu pour tout reprendre à frais nouveaux. Il s'installe à Bethléem, et là, il va réaliser aussi dans un dialogue avec des rabbins, pour bien comprendre le texte hébraïque, il va réaliser une traduction complète de la Bible, plus proche de l'original. Donc il va traduire de l'hébreu ce qui est en hébreu, et du grec ce qui est en grec. Et cette traduction va achever de détrôner les autres traductions grâce à Charlemagne, au point de devenir la version commune de la Bible en Occident, d'où son nom de Vulgata. Hein? Biblia Vulgata, c'est la Bible commune.